10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Chers auditeurs, bonjour. Merci d'être si nombreux à nous suivre d'émission en émission. Nous voici pour Le Monde ne suffit pas numéro 28, consacré à la Corée du Nord. À mes côtés se trouve, comme d'habitude, Justine. Bonjour Justine.
Bonjour Cyril, bonjour à tous.
Vous l'avez sans doute constaté dans les médias ces dernières semaines, la Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un font parler d'eux en utilisant la rhétorique belliqueuse qui les caractérise bien souvent. Ils ont déclenché une véritable crise diplomatique en Asie-Pacifique. Le régime de Pyongyang brandit en effet la menace d'une guerre atomique contre les États-Unis et ses alliés dans des vidéos tonitruantes. Ils accumulent également les ultimatums, les mises en garde et les sommations en tout genre envers leur sœur ennemie, la Corée du Sud. Pour évoquer les enjeux géopolitiques liés à cette crise des missiles nord-coréens, nous avons avec nous un géographe spécialiste de l'Asie-Pacifique et notamment du Japon, où il a vécu durant plusieurs années. Il a en outre abordé dans ses œuvres les problématiques de l'insularité, du paysage et les rapports entre géographie et anarchisme. Il est l'auteur également du concept de japonaisie cher à plusieurs générations de cagneux. Philippe Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Afin de bien comprendre la situation géopolitique entre les deux Corées, faisons un petit retour en arrière dans le temps.
C'est une ligne artificielle qui suit le 38e parallèle, tirée à la règle par un fonctionnaire américain en août 1945. La DMZ, zone démilitarisée qui sépare deux Corées surarmées, est peut-être l'endroit le plus dangereux du monde.
La relation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord a bien entendu été marquée par la guerre qui a sévi entre 1950 et 1953. Les Coréens du Nord, menés par Kim Il-sung, donc le père de Kim Jong-il et le grand-père, vous l'aurez compris, de Kim Jong-un, avaient rapidement réussi à descendre vers le sud et presque toucher l'océan Pacifique, hormis la ville de Pusan. Les Américains avaient débarqué en nombre et avaient repris la péninsule coréenne, contraignant le Nord à signer une armistice en 1953 qui délimitait la partition entre les deux Corées le long d'une ligne démilitarisée. Durant la guerre froide, les relations ne se réchauffent pas, puisque le Nord mène un espionnage permanent au Sud. Il conduit également des tentatives de déstabilisation du Sud afin de pousser le peuple à une révolution marxiste-léniniste. Le dictateur de l'époque du Sud, Park Chung-hee, subira des tentatives d'assassinat nombreuses, dont une qui parviendra à tuer son épouse. L'éloignement des deux régimes se poursuit dans le cadre de la guerre froide. Le Nord est sous tutelle russo-chinoise, tandis que le Sud appartient au bloc occidental, il est même membre de l'OTAN. Des tentatives de paix se font jour à plusieurs reprises. En 1980, le Sud propose de fonder une république fédérale basée sur l'autonomie régionale des deux parties, du Nord et du Sud, avec parité de députés à l'Assemblée nationale. En 2000, Kim Dae-jung obtiendra le prix Nobel de la paix pour ce qu'on a appelé la politique du rayon de soleil. Il mène une politique de réunification qui aboutira à un dégel des relations et à une création d'une zone industrielle très symbolique à Kaesong, dont nous allons reparler dans quelques instants, une zone qui emploie des Nord-Coréens et des Sud-Coréens et qui se situe en Corée du Nord. Néanmoins, les années 2000 à 2010 ont été émaillées par des incidents tels que celui de Baek-yong, qui vit probablement le torpillage, même si l'enquête n'a pas abouti,
le torpillage d'un bateau sud-coréen venu naviguer un peu trop près des côtes nord-coréennes. On le voit donc, la Corée du Nord mène une guerre continue contre l'impérialisme et nourrit donc des relations particulièrement houleuses avec les États-Unis. En 1976 déjà, ce qu'on avait appelé l'incident du peuplier avait conduit à la mort de deux soldats américains tués pour s'être approchés un petit peu trop près de la frontière nord-coréenne. En 2009, deux journalistes asiatiques mais de nationalité américaine avaient été arrêtés à la frontière car prises pour des espionnes chinoises. Les relations ont toujours été globalement bonnes avec la Chine, mais se sont peu à peu dégradées. Elles se fondent sur un traité d'amitié qui date de 1961. Les relations économiques sont par contre très fortes, puisque la Corée du Nord dépend à 90% de la Chine pour son énergie, à 80% pour ses produits manufacturés, et à près de 50% pour ses denrées agroalimentaires. Comble du comble, signe que la Corée du Nord est décidément dans tous les bons coups contre l'impérialisme, des pilotes coréens étaient présents parmi les forces arabes lors de la guerre du Kippour.
Donc merci Cyril pour ces rappels géopolitiques. On peut peut-être maintenant aborder rapidement la question de la vie quotidienne en Corée du Nord. Alors tout d'abord, première caractéristique, elle est particulièrement méconnue. On a très peu d'informations sur la vie de cette population. On peut cependant affirmer que le niveau de développement économique et social est assez bas. Comme l'a rappelé Cyril, les produits viennent en majorité de Chine ou de Russie et viennent souvent à manquer. L'urbanisation est marquée par un type soviétique, mais est encore assez archaïque sur certains aspects. On peut citer l'exemple du métro de Pyongyang qui s'est effondré lors de sa mise en place. La dictature, quant à elle, le mode de vie des dirigeants est un peu plus facile. Ce sont les seuls ayant un accès illimité et libre à Internet. On estime qu'ils consomment pour 800 000 dollars d'alcool et de méfaim par an. Et de façon anecdotique, on pourrait souligner qu'il paraît que les dictateurs nord-coréens sont amateurs de cinéma occidental, comme des James Bond, des westerns, et aiment aussi le football. Quelles sont les relations entre ces dirigeants et leur population? Elles sont marquées par un culte de la personnalité extrêmement intense. Des leçons sur l'enfance des dirigeants sont données à l'école. Chaque université a un département d'études sur Kim Jong-il, le père du dirigeant actuel. Des légendes sont sans cesse diffusées concernant la vie des dirigeants. À la télé, sur les 2-3 chaînes nationales qui sont diffusées, il y a sans cesse des documentaires ou des extraits d'images de récits épiques sur la vie des dirigeants. Alors après ces rappels sur la Corée du Nord, venons-en à l'actualité la plus brûlante qui nous amène à faire cette émission aujourd'hui. Donc le dirigeant actuel, Kim Jong-un, est arrivé au pouvoir il y a un peu plus d'un an et demi, en décembre 2011, et le début de son mandat est marqué par une reprise du programme nucléaire militaire. La crise des missiles de 2013, à proprement parler, commence en février 2013. Le 12 février 2013, en effet, c'est le troisième essai nucléaire de la Corée du Nord, après ceux de 2006 et de 2009. On estime que, selon les types de missiles, divers pays pourraient être menacés. Le Japon, bien sûr, mais aussi l'Inde et l'Australie, ainsi que l'Alaska pour les missiles les plus puissants. Kim Jong-un développe à ce sujet une rhétorique belliqueuse et menace de guerre nucléaire avec les États-Unis dans plusieurs déclarations qui ont été faites ces derniers temps. Une alliance de facto s'est constituée, avec d'un côté la Corée du Sud, les États-Unis qui tentent aussi de défendre leur territoire de Guam pouvant être touché par les missiles, ainsi que le Japon. Des soldats sont en alerte, notamment sur la base américaine qui se situe à Okinawa au Japon. Les États-Unis ont aussi déployé des intercepteurs de missiles supposés pouvoir interrompre en vol des missiles émis par la Corée du Nord. Taïwan aussi prépare son aïtiri. Les Philippines sont aussi prêtes à intervenir. La Chine a placé des soldats à la frontière, la Chine pourtant alliée historique de la Corée du Nord. L'ONU a émis des déclarations condamnant ces essais nucléaires. Et Pyongyang se montre particulièrement agacé par ces condamnations de l'ONU et exige qu'elles soient annulées pour pouvoir entreprendre des négociations. Le 9 avril 2013, Pyongyang recommande carrément aux étrangers de quitter le sol nord-coréen en disant qu'ils ne pourront plus y être protégés du tout. Le 12 avril, Pyongyang annonce que la guerre peut commencer à tout moment. La Chine prend la menace au sérieux et met en place des exercices d'évacuation des villes proches de la frontière nord-coréenne. Le 16 avril, Pyongyang somme Séoul d'arrêter les provocations. En effet, des citoyens sud-coréens avaient effectué des autodafés des portraits de Kim Jong-un dans les rues. Même Fidel Castro est sorti de sa réserve et a demandé à ce que le climat en Corée s'apaise. Le 19 avril, la Corée du Nord émet un espoir d'une volonté de rapprochement. Elle semble avoir voulu faire monter les enchères mais n'est pas prête à une guerre. Mais, comme je l'ai déjà dit, exige que les résolutions de l'ONU soient retirées pour que des négociations puissent avoir lieu.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
Alors Philippe Pelletier, la première question que je voudrais vous poser, on sait que la Corée du Nord est un pays extrêmement fermé, le Quai d'Orsay estime que 8 Français seulement s'y trouvent actuellement, et seulement 1 à 2 milliers de visas pour les étrangers sont octroyés par an. J'aimerais vous demander si vous avez pu, en tant que spécialiste de l'Asie-Pacifique, obtenir un de ces précieux visas et vous y rendre à un moment donné.
Non, pas du tout, même si quelque part c'est dans mes... projet, mais je saisirai l'opportunité s'il y en a une, mais j'ai peur que dans l'énoncé que vous avez signalé tout à l'heure, il y ait un petit barrage qui se forme à ce moment-là.
Oui. Alors, c'est un pays extrêmement méconnu, que l'on savait sous tutelle soviétique et ensuite russe, également chinoise. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, un miracle économique nord-coréen tel que le régime le prétend ou l'a prétendu?
Alors, bon, déjà, il était sous la tutelle chinoise, hein, pas vraiment russe. Après, concernant le dit miracle économique, en fait, c'est une modification depuis une dizaine d'années des échanges, notamment avec la Chine, voire la Corée du Sud, et surtout la zone franche de Kaesong, qui accueille un certain nombre d'entreprises essentiellement sud-coréennes, avec de la main-d'œuvre qui est moins chère que la main-d'œuvre sud-coréenne, qui marche plutôt bien, hein, cette zone franche d'activité, ce qui fournit les devises au régime nord-coréen. Cela dit, tout cela reste modeste en volume. Hein. Par contre, ça a une signification géopolitique assez importante parce que cette zone franche de Kaesong a été interprétée un petit peu comme étant un test de la part du régime envers ses propres membres d'une part et envers les pays riverains pour savoir s'il était possible de se lancer dans une voie, alors peut-être pas à la chinoise mais à la nord-coréenne.
Ouais.
Et là je pense qu'on est dans une phase où ce test arrive à une espèce de tournant. Alors on est toujours à un tournant de quelque chose, mais là
elle est juste à la frontière, c'est ça la
c'est
zone
ça,
de
oui.
Kaesong, pas de la zone...
Elle est à une... Donc dans la ville de Kaesong, qui est une ville historique, qui est une dizaine de kilomètres de la DMZ. Donc en fait, il y a un axe ferroviaire et surtout un axe routier qui relie directement Séoul à Kaesong. Mais il ne faut montrer pas de blanche, évidemment.
Et quel type d'industrie on trouve dans cette économie depuis ce soi-disant miracle économique ou même avant?
Alors bon, déjà je pense qu'il faut vraiment dire soi-disant, hein,
donc
ce léger boom économique.
quand est-ce qu'il serait survenu, ce léger boom?
Depuis l'ouverture de la zone franche, c'est-à-dire depuis en gros, depuis le dégel, c'est-à-dire à partir de 2000.
D'accord.
Après il y a eu plusieurs étapes pour l'ouverture de cette zone franche. Donc ce sont des entreprises sud-coréennes, notamment des chaebol, donc les grandes entreprises sud-coréennes, spécialisées. Alors dans du haut de gamme, voire de la gamme moyenne supérieure, notamment ce qui est électronique, montres, textiles, mais textiles de, comment dire, de sophistiqués, voilà.
D'accord.
Plus d'autres choses. Mais en gros, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement, c'est quand même du relativement haut de gamme.
D'accord. On imagine aussi une forte représentation du secteur militaire dans l'industrie nord-coréenne.
Alors, pour l'ensemble, évidemment que oui. La difficulté, c'est d'avoir les informations. Alors là, il faut vous adresser au Pentagone, hein, ça ira plus vite.
On est en contact avec eux, justement. Et au sujet de l'agriculture nord-coréenne, j'imagine qu'on la connaît mal aussi. Et on sait par contre qu'entre 1994 et 1998, il y aurait eu une période de famine assez importante, suivie de disettes régulières.
Alors le régime l'a expliqué par des mauvaises récoltes, par des inondations, etc. Après, pour en savoir plus sur les causes, vraiment, c'est difficile. Toujours est-il qu'effectivement, il y a eu une disette, sinon une famine. On l'a su par divers moyens, notamment les réfugiés, parce qu'il y a quand même a eu plus de personnes qui ont essayé de s'enfuir de la Corée du Nord, ce qui a déclenché une aide internationale, au début dédaignée par le régime et puis acceptée par celui-ci.
D'accord. Et c'est l'histoire de cette famine, vous parlez aussi de personnes qui essayent de s'échapper du pays. Tout cela pose la question des conditions de vie de la population qui est là-bas. Est-ce que la question se pose dans la communauté internationale d'intervention comme ça, sporadique ou d'une intervention majeure, pour venir en aide au moment de besoin à cette population qui est privée de certains droits qui peuvent paraître élémentaires? Ou est-ce que c'est une question qui ne se pose pas pour toutes les histoires de droits d'ingérence, etc.?
Bah, disons que ça, c'est possible seulement si la Corée du Nord l'accepte ou le demande. On n'en est pas dans cette logique-là en ce moment. J'allais dire même surtout pas.
Mmh. D'accord.
Alors là, bifurcation brutale. On le rappelle aux auditeurs, vous êtes spécialiste du Japon. Quel est l'état actuel des relations entre Japon et la Corée du Nord? Est-ce qu'ils se positionnent clairement dans l'alliance qui s'est formée un peu de facto avec les États-Unis et ses alliés traditionnels?
Alors la question des rapports entre le Japon et la Corée du Nord est une question qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment analysée avec sérieux et profondeur. Je pense que c'est une lacune du monde de la recherche, notamment en France, mais pas seulement, parce que, en fait, en réalité, cette question, elle est complexe, parce qu'on a, on est dans un schéma, si vous voulez, où on a l'apparence, et puis ce qu'il y a derrière. Donc l'apparence et le discours dominant, c'est la menace. Le régime menaçant, fou, ou proche de la folie, donc irresponsable, incontrôlable. Bon. Ça, c'est le discours officiel, donc il faut se prémunir contre. Il faut s'en prémunir, pardon. Ce qui peut, au passage, d'ailleurs, légitimer le développement de l'armement au Japon, voire un cran plus loin, puisque malgré Fukushima, est ressortie l'idée parmi les dirigeants japonais que le Japon se dote de l'arme nucléaire. Donc de ce point de vue-là, si je puis dire, la Corée du Nord est l'épouvantail parfait, entre guillemets, y compris pour les États-Unis d'Amérique, sinon pourquoi pas pour la Russie. Mais derrière ça, en fait, il y a des relations beaucoup plus complexes, sinon opaques, qui, pour le coup, sont difficiles à analyser. Parce que, en fait, dans le cas du Japon, on a une situation assez particulière qui est la présence d'une minorité d'origine coréenne importante.
Oui.
En gros, 700 000 personnes, oui. Un peu plus, mais qui ont encore la nationalité, qui n'ont pas la nationalité japonaise. Hein, donc, plus les descendants.
Ah, oui.
Donc deuxième, troisième, voire déjà quatrième génération. Et dans cette immigration coréenne, qui était une immigration largement forcée, mais pas totalement, qui remonte donc à la période de l'impérialisme japonais et à la Seconde Guerre mondiale, la tendance dominante est la tendance favorable au régime du Nord. Donc, alors ce sont donc la communauté nordiste, si je puis dire, coréenne au Japon, est donc bien implantée. Elle dispose d'un certain nombre de moyens financiers, plus ou moins légaux, puisque c'est une histoire qui remonte à l'après-guerre et au marché noir. Il se trouve qu'un certain nombre de Coréens se sont retrouvés dans les rangs des Yakuza, donc la mafia japonaise, notamment pour le marché noir. Et puis quand le marché noir a disparu, se sont retrouvés dans d'autres activités plus ou moins légales, mais assez rémunératrices, en particulier le jeu. En particulier le jeu du pachinko, qui est un jeu d'une espèce de billard électronique, mais qui peut rapporter de l'argent off. Enfin, bon, tout le monde le sait, bon, c'est une espèce de, c'est toléré. Et ça, c'est des beaucoup de sommes d'argent. Plus, on sait, un trafic de drogue, d'amphétamines entre la Corée du Nord et le Japon, plus un trafic d'armes de poing, je veux dire, à feu, relativement secondaire, mais qui, si vous voulez, qui crée des liens entre ces Coréens-Japonais-là et le régime de la Corée du Nord. Hein, c'est quand même, bon, ça fait partie des devises, oui, mais relativement occultes, et qui est aussi en partie utilisé par le gouvernement japonais pour faire aussi passer des informations.
Ah, d'accord.
Mais ça, je le dis. Comment dire, avec précaution, parce que c'est des choses que j'ai apprises sur place en discutant avec un certain nombre de personnes, mais qui sont de fait difficiles à recouper. En particulier, on n'arrive pas à expliquer correctement la visite surprise du Premier ministre japonais en Corée du Nord en 2002 et en 2004. Hein, pourquoi c'était Koizumi à l'époque, il s'est précipité de sa propre initiative en Corée du Nord. Bon, il y avait le dégel entre le Nord et le Sud, hein, depuis 2000, mais il a fait ça tout seul sans en référer à son allié américain qui d'habitude est toujours derrière. Alors quand on sait que Koizumi était la grande figure du parti libéral-démocrate alors au pouvoir, qui est revenu au pouvoir et qui fait partie du courant dit néo-nationaliste, donc la droite est dure. Bon, on s'interroge un petit peu sur les connexions plus ou moins souterraines. Et puis, ce qui va recompliquer l'affaire, c'est que pendant longtemps, l'un des rares canaux officieux, donc quasi officiel en réalité, entre la Corée du Nord et le Japon, passait par le Parti Socialiste Japonais.
D'accord.
Qui avait, avait beaucoup de contacts avec le régime nordiste au nom d'un socialisme asiatique, etc. Voilà.
D'accord.
Donc c'est ce qui fait des rapports assez complexes et je répète plutôt opaques.
D'accord.
Et la société japonaise. Alors je suis tombé sur cette anecdote. Le cuisinier de Kim Jong-il, qui est japonais, qui s'appelle Kenji Fujimoto, a publié une trilogie de livres, apparemment, donc sur sa vie avec Kim Jong-il. Et apparemment,
Kim Jong-un.
Ah, d'accord. Et il a réussi à fuir en prétextant aller acheter des bons oursins à Hokkaido. est-ce que qu'en pense la société japonaise, en fait? Est-ce que elle a confiance en l'armée pour la défendre, ou est-ce que la tension est palpable?
Honnêtement, bon, c'est une question difficile, hein. La société japonaise, Japonais. Je pense qu'au niveau dirigeant, le discours est le discours de l'épouvantail et de la menace. Je pense qu'au niveau du peuple, non, pas de panique à bord, un certain scepticisme, sinon un haussement d'épaules. Sauf qu'il y a quand même un point important qu'il faut rappeler, c'est que dans sa phase dite terroriste, c'est-à-dire de la fin des années 70, début des années 80, comme quand Kim Jong-il avait cette stratégie-là de type Kadhafi à l'époque, hein, entre guillemets, il y a eu quand même ces opérations de kidnapping de jeunes japonais et japonaises, donc sur place au Japon, pour les envoyer en Corée du Nord, les embrigader et ensuite éventuellement les renvoyer au Japon comme espions nord-coréens. Donc, c'était des drames terribles parce que vous attendez votre fille au retour de l'école, elle arrive toujours pas, elle disparaît mystérieusement complètement. Alors, il y a eu des fuites expliquant que c'était la Corée du Nord qui était derrière ça. La Corée du Nord a toujours nié. Et là, pour le coup, pendant les visites de Koizumi en 2002 et en 2004, le régime nord-coréen a reconnu qu'effectivement, il avait pratiqué ses enlèvements et a plus ou moins présenté ses excuses. Donc, ce qui a fait passer la pilule à un niveau diplomatique, si je puis dire, mais qui, au sein du peuple japonais, a créé un certain nombre de tensions. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, c'est des trucs quand même assez ahurissants, quoi.
Et ils avaient même fait ça à un cinéaste sud-coréen, si j'ai bien compris. Je sais plus son nom, enfin, il s'appelle Park, mais je ne me souviens plus. Oui, il aurait été kidnappé et ensuite, en prétextant se rendre à un festival à l'étranger, il est allé dans l'ambassade américaine pour retourner à Séoul et il est mort en 2011. Enfin, je ne me souviens plus son nom. En Corée du Sud, vous êtes allé en Corée du Sud 5 fois. Même question. Les Coréens du Sud ont plus de craintes. Ils sont encore plus prêts que...
Alors là, c'est difficile. Moi, j'aurais tendance à dire que, un petit peu comme au Japon, avec cette espèce d'haussement d'épaule devant les gesticulations de la Corée du Nord, mais quand même toujours en arrière-fond, oui, mais on ne sait jamais si. Ouais. Hein. Et puis, surtout, l'expérience de la guerre de Corée, qui est quand même un grand traumatisme dans la population coréenne, avec aussi la nuance qu'il y a la partition. Donc, quelque part, ce sont nos frères et nos sœurs. Voilà, il y a une ambivalence, mais qui, je pense aussi, est quelque part valable de l'autre côté. D'accord. C'est-à-dire que du côté nord aussi, ce sont malgré tout nos frères du sud, même s'ils sont dominés par les États-Unis d'Amérique ou par le Japon. Encore que dans le discours nordiste, notamment... Enfin, il y a quelque temps, avant que cela, qu'il y ait une réescalade en quelque sorte verbale, il y avait plutôt un espèce d'apaisement. L'ennemi n'était pas forcément complètement désigné. Hein. Donc là, il y a des nuances assez subtiles qui fait la joie des observateurs. Alors ça, c'est une première chose. Et la seconde, en revanche, est-ce que si on va vers la DMZ, donc la zone démilitarisée, là, par contre, c'est la guerre froide entre guillemets. C'est le checkpoint comme à Berlin ou dans le film de Tarkovsky Stalker. Ouais. Sauf qu'en même temps, il y a une espèce de Disneylandisation de ce phénomène-là, puisque maintenant on peut visiter notamment un lieu où l'un des 4 tunnels a été découvert entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, en fait, c'est des tunnels où les Nord-Coréens devaient s'infiltrer, etc. Et il y en a un qu'on peut visiter. Il y a un petit chemin, il y a un petit train qui descend au fond de la terre. Après, on peut visiter le tunnel. Il y a des bandes sonores qui expliquent. Il y a toute une mise en scène. On met les casques. Après, on visite le musée. Après, il y a la boutique de souvenirs où on vend d'ailleurs quelques rares produits nord-coréens. Donc, il y a une espèce de mise en scène aussi de ça qui est assez paradoxale. Parce que d'un côté, c'est des panneaux partout et des livres partout qui disent attention, l'ennemi est là. Il est très menaçant. Il est très méchant, rappelez-vous, et on rappelle tous les incidents, puis en même temps, c'est les cartes de touristes qui arrivent, c'est les gamins qui courent de partout, c'est les friandises, il y a ça qui se télescope.
Et il y a aussi toujours cette idée en suspens qui s'éloigne et qui revient d'une réunification potentielle des deux Corées. Est-ce un mythe à vos yeux qui sera jamais...
Il ne faut jamais dire jamais.
Mais à ce jour, quels sont les obstacles? Quels seraient les obstacles à ce jour à une telle réunification?
Il est vraiment difficile de faire la prospective. Moi, ce que je pense, c'est qu'en réalité, le noyau ou le verrou, c'est le régime chinois. C'est-à-dire que... Le régime nord-coréen a une espèce de laisse chinoise autour du cou, et le régime la tire plus ou moins. Pour le moment, le couple Corée du Nord-Chine fonctionne, mais jusqu'à quand? On ne peut pas exclure un prurite de supernationalisme nord-coréen anti-chinois. Mais bon, il faudrait que le régime nord-coréen ait un intérêt objectif à se fâcher avec le grand voisin chinois. Franchement, on ne le voit pas du tout. De l'autre côté, le régime chinois n'a pas forcément intérêt à une réunification, ou en tous les cas, pas à n'importe quel prix. Parce que si c'est pour effectivement créer de nombreuses turbulences. Alors le discours chinois, c'est la crainte des vagues de réfugiés, de Nord-Coréens pauvres qui viendraient là se mettre dans les régions du Nord-Est, et bon, ça créerait trop de problèmes. Bon, moi je sais pas trop si vraiment cette crainte est justifiée, mais globalement à un niveau plus général, bon, le régime chinois recherche des formes de stabilité quand même au moins régionale, comme on dit. Donc il n'a pas intérêt finalement à ce que ça change. Donc il est je pense qu'il est assez favorable à une espèce de statu quo subtilement dosé. Et je pense que ce qui se passe actuellement, donc au niveau du régime nordiste et de Kim Jong-un, c'est plutôt une affaire intérieure.
C'est ce qu'on entend aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Kim Jong-un recherche une légitimité qu'il n'a pas forcément, notamment parce que l'hypothèse courante, c'est qu'en fait, il est passé devant tous les militaires, hein, tous les vieux cadres de militaires, tous les apparatchikis.
Donc il est très jeune.
Voilà, et il est très jeune. Il a été propulsé donc dans les hautes responsabilités. Alors par le père, donc d'accord, ok, mais quand même, on ne fait pas ça comme ça non plus. Donc là, je pense qu'effectivement, là, il doit montrer à la classe militaire, faire ses preuves en quelque sorte. Hein.
Oui, d'autant plus qu'on lui connaissait des fréquentations un peu... Bon, il avait voyagé en Europe, il aimait bien les grosses voitures, le football...
Ouais, le père aimait bien les films américains, ouais. Donc...
Est-ce que vous pensez que l'élection au Sud de Park Geun-hye, qui est quand même la fille du dictateur honni par le Nord dans les années 60 et 70, pourrait avoir un effet sur les relations
Alors, en fait, donc il y a eu concomitance d'événements, puisque la fille Park est arrivée au pouvoir au Sud, le petit-fils Kim est arrivé au pouvoir au Nord à peu près au même moment. Et tout de suite, ce qui a été dit, ce qu'ils ont dit, c'est effectivement il faut un réchauffement entre nos deux pays, hein, puisqu'il y avait eu un refroidissement. Et Kim Jong-un avait, dans son discours télévisé, diffusé le 1er de l'an de 2013, donc il avait non seulement appelé à cesser la confrontation entre le Nord et le Sud, mais aussi il avait appelé à un virage radical afin de construire un géant économique pour la Corée du Nord. Donc là, c'était quand même un signal fort pour dire d'une voix à la chinoise, entre guillemets. Donc est-ce que ce deuxième signal n'a pas fait peur à une partie du régime, dont les militaires? Est-ce que justement il ne doit pas donner des gages de durcissement d'un côté et puis de l'autre, effectivement, pratiquer une ouverture économique? Du coup, avec ce double discours, côté sud, Park, elle a été un peu déstabilisée.
D'accord. Et on sent aussi que les Chinois lâchent un peu la Corée du Nord, tout doucement. Ils ne tolèrent plus les essais nucléaires souterrains, à proximité de la frontière chinoise en tout cas. C'est une perte de poids quand même pour la Corée du Nord, qui est de plus en plus isolée.
Après, on en arrive à un niveau macro, c'est-à-dire la question du traité de non-prolifération nucléaire. Et quelque part, je pense que le régime nord-coréen joue cette carte. Alors, le problème, c'est qu'avec les informations qu'on a ici, je pense qu'il y a une espèce de voile qui empêche de voir cette réalité-là, c'est que le discours nord-coréen est partagé par d'autres pays, dont l'Iran, mais pas seulement de dire que pourquoi certains pays ont droit à la bombe et pas nous, enfin, sur ce qui, sur le plan purement théorique, est entendable. Donc un certain nombre de pays émergents alors veulent pas forcément avoir la bombe, mais je pense peuvent aussi s'appuyer sur ce type de discours-là pour prendre leur distance avec, par exemple, l'Amérique, sinon avec la Chine, pour dire vous êtes bien gentils, mais là, vous êtes les nouvelles puissances impérialistes. Je pense que cet aspect-là existe et que le régime nord-coréen le sait et d'une certaine façon en joue précisément pour mettre la Chine, les États-Unis, le Japon et la Russie en face d'une forme de contradiction.
D'accord.
et on parle de la bombe justement, toutes ces menaces là qui paraissent un peu presque folles ces derniers jours, est-ce qu'on peut avoir une idée des réactions que la Corée du Nord espère avoir en face, en fait, à la fois les réactions intérieures et des autres pays?
Difficile à dire, mais on peut imaginer que on fait monter les enchères, quoi, comme au poker, et on essaie de ramasser une mise derrière. Alors, quelle serait la mise? Difficile à dire, hein. Pour le coup, on revient à, finalement, est-ce que, ok, on vous laisse un peu de nucléaire, à condition que ce soit un nucléaire pacifique, peut imaginer cette hypothèse-là aussi. On peut imaginer aussi qu'il y a un essoufflement de la rhétorique nord-coréenne en fonction de la Chine. Bon, on va pas plus loin, tant pis, mais on refera un essai dans 3 ans, le statu quo prolongé, quoi.
Oui, ils auraient clairement pas les moyens de leurs ambitions, vous pensez?
Non, mais ils seraient radiés de la Terre, là.
On a vu leur lancement de satellites échouer, les missiles qui tombent dans l'eau.
Non, mais même là, en face, la riposte américaine est clairement supérieure. Hein.
Oui. Américaine, japonaise.
Japonaise. Etc. Alors c'est bon.
Oui. Donc vous ne croyez pas une guerre entre les deux Corées, en tout cas pas tout de suite.
Alors ça, c'est légèrement autre chose, parce que ça voudrait dire un affrontement qui soit pas forcément un affrontement. Pour le coup, nucléaire, donc qui serait conditionnel à un affrontement classique. Ce qu'on peut interpréter, c'est que en fait, c'est les incidents à la frontière sont clairement un moyen de tester justement le nouveau régime PAC, hein, pour savoir effectivement s'ils sont solides ou pas, comment ils réagissent, s'il y a le soutien de la population ou pas, s'il y a le soutien de l'Amérique. Je le verrai plutôt dans ce sens-là.
D'accord.
Eh bien, merci Philippe Pelletier d'avoir répondu à nos questions incisives sur la Corée du Nord. Merci à vous, chers auditeurs. Merci Justine.
Et n'oubliez pas que le monde ne suffit pas.